19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM, spécial football, spécial Coupe du Monde, bien sûr. Et oui, et oui, et oui, la finale qui nous attend entre la France et l'Argentine, mais voilà, qui a vu notamment une demi-finale disputée hier soir entre la France et le Maroc. Victoire des Français sur le score de 2-0 grâce à des buts de Hernandez et de Kolo Muani. Avec moi ce soir, les deux consultants, choc. Ils sont en place, ils ont mis les crampons, ils ont le beau maillot. Mourad est avec nous. Comment ça va, Mourad ?
Bonsoir, Claude. Comment vas-tu, Claude ?
Bah écoute, ça va impeccable. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé.
Exactement, ça fait plaisir de te voir dans un autre poste qu'à l'habitude, donc c'est cool.
Poste de coiffeur.
Exactement.
Ouais, coiffeur de Bilal, plaisir partagé. Rafik est avec nous également ce soir, Rafik.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un plaisir, on a un beau plateau ce soir.
Donc, ouais.
On est au niveau de la compétition, dernière ligne droite, les choses sérieuses commencent.
Et puis Rafik, tu nous parleras de notre invité ce soir, Yacine Hamned, qui est avec nous.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci pour l'invitation.
Un plaisir de vous recevoir dans notre émission de Time Sport sur Beurre FM. On se retrouve juste après ça.
Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Alors on est de retour sur Time Sport, sur Beurre FM. On embrasse Bilal qui est. Il est out, il est à l'infirmerie, il est allongé, il nous écoute en tout cas. Donc beaucoup de force pour Bilal de retour donc sur Time Sport avec donc mes consultants Rafik Mourad, sans oublier Yacine Hamned qui est avec nous également. On va parler donc dans cette émission donc du Maroc intéressant mais juste. On parlera également de l'équipe de France qui se dirige certainement ou pas vers une troisième étoile et on terminera avec l'Argentine de Léo Messi, favori de cette finale et peut-être le sacre ultime pour Lionel Messi. Allez, c'est parti.
Time Sport. Time Sport. Les pourparlers.
Les amis, les pourparlers. Un Maroc intéressant, mais juste, est-ce qu'il a manqué quelque chose, Mourad, au Maroc hier soir ? Défaite 2-0 face à l'équipe de France.
Je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose. Moi, j'ai vu. J'ai vu déjà, c'était un très beau parcours. Déjà, je pense que les Marocains doivent être fiers de leur équipe nationale. Après, voilà, c'était un demi-finale de Coupe du Monde face au tenant du titre. Je pense que, bon, je ne suis pas expert en tactique, mais il y a eu beaucoup d'éléments perturbateurs. Je pense qu'ils ont un peu induit en erreur Walid Regragui. Ben, c'est le fait que ben, c'est les blessures, entre autres. Quand tu as ta charnière centrale, notamment à Gerd, qui fait une super Coupe du Monde, et que tu as Saïs, que tu perds en cours de route, Mazraoui, et que t'as les entrants qui sont pas en rendez-vous, etc. Bah du coup t'abordes pas les matchs de la même façon. Ils ont eu entre guillemets la malchance d'encaisser très tôt. Donc il y avait des éléments perturbateurs, sur lesquels ils n'avaient pas l'habitude de gérer, d'accord. Mais sinon sur le contenu, il y a le résultat, il y a le contenu. Je pense qu'ils ont regardé l'équipe de France droit dans les yeux. Après, bien sûr, pour aller le plus loin possible dans une Coupe du Monde, bah, il y a un 11, mais il y a aussi l'apport des entrants, il y a aussi le banc. Et je pense que c'est ce qui a manqué un peu au Maroc. Après, moi, je ne le vois pas comme une surprise, je ne le vois pas comme un exploit. Quand on regarde... moi, je vois cet accomplissement à la hauteur de leur effectif. Voilà, ils ont des gros joueurs par ligne et ils ont fait une super Coupe du Monde. Donc voilà, donc, par rapport au match d'hier, un peu déçu, comme tous les Africains aficionados comme moi, par exemple, hier. Mais sinon, je pense que c'était un beau match.
Rafik,
on va essayer de compléter les propos qui sont déjà très complets par moi. Le positif sur le parcours marocain, c'est qu'on a quand même réussi à avoir une sélection africaine qui a réussi à briser le plafond de verre qui était jusque-là au niveau de cette compétition. Donc, c'est encourageant pour la suite. Après, au niveau de l'événement, quand tu n'es pas décisif dans les deux surfaces de réparation, tu peux pas prétendre à plus. Donc malheureusement, ils étaient confrontés à leur limite, entre guillemets, surtout offensive, où on a eu un Nesri qui n'était pas au niveau des tours précédents et qui n'a pas été décisif. Donc du coup, quand tu as un avant-centre qui n'est pas performant, compliqué de prétendre à mieux. Et après, le positif, c'est qu'on a eu...
Tu fais rentrer Amdala pour remplacer Nesri.
Compliqué, dur. Déjà, quand j'ai vu rentrer, je me suis dit...
Il s'est emmêlé les pinceaux.
Ouais.
J'ai l'impression que le coaching de Regragui, il est peut-être intervenu un peu trop tôt. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais après, il subit.
J'aurais peut-être laissé un peu Bouffal, un peu continuer un peu plus. Ou En-Nesyri aller un peu plus. Peut-être qu'ils auraient eu ce ballon qui aurait fait que, à un moment donné, ils auraient pu égaliser. Voilà, en tout cas, ce qui est fait, mais.
Après, voilà. Après,
mais les entrants, voilà. J'étais un peu déçu par les entrants et en même temps, on était au courant quand on vient de la rentrée. On sait que.
Ah, tu peux pas prétendre à bien.
Même si c'est l'oiseau rare, pour ceux qui connaissent un peu le football marocain. mais voilà, par rapport à la Coupe du Monde qu'il fait, je le voyais pas être décisif du coup.
Yacine, votre ressenti sur la rencontre d'hier, le Maroc.
Moi, je pense que le Maroc est plombé par son début de match, en fait. Tu prends un but trop tôt dans la rencontre et t'es obligé de prendre le ballon et t'es obligé d'ouvrir des espaces aux Français qui attendent que ça. Malgré tout, sur la deuxième mi-temps, il pose de vrais problèmes à l'équipe de France. Je pense aussi qu'il tombe sur un très bon Lloris, finalement. Ils ont eu des situations, plus que des occasions, mais des situations où quand même les sauvetages sont un peu à l'arrache. Je me rappelle l'action de Okoundé dégage devant son but. Voilà, c'est, moi je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et, sauf sur le premier quart d'heure. Après le premier quart d'heure, il y a deux choses, il y a deux éléments importants. C'est le changement de système et la titularisation de Saïs qui est en fait pas prêt. Je pense que ça te plombe finalement le match parce que plus tu tenais le 0-0 et plus je pense que les Français, je pense pas qu'ils auraient paniqué parce que dans le sens où je pense que cette équipe de France, elle est très froide.
Ouais, sûr.
Mais bon, à un moment donné, quand t'es à 0-0 contre le Maroc, ça aurait pu commencer à peser, tu peux te poser des questions. Il y a peut-être des joueurs aussi qui auraient été en difficulté. Voilà, le problème, c'est de prendre un but au bout de 5 minutes, quoi. Je pense que c'est ce qui les plombe.
Anto, tu voulais réagir à notre réalisateur ce soir, comme tous les soirs.
Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Non, bravo déjà pour le parcours du Maroc. Ils ont fait un très beau parcours en sortant des grosses nations. Par exemple la Belgique ou le Portugal. Moi, pour revenir sur Bouffal, c'est vrai qu'il avait fait, je trouve, des bons matchs. Mais après, il était déjà sous un carton jaune parce qu'il était un peu chauffé avec quelques joueurs français. Donc, je comprends pourquoi l'entraîneur marocain a préféré le sortir parce qu'il était trop chaud au niveau des réactions. Donc, c'était peut-être plus pénalisant de le sortir que le laisser et prendre un carton rouge. Après, c'est vrai qu'ils avaient des grosses occasions. Je repense à la deuxième période où ils ont été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus dangereux devant le but. Encore un très bon Hugo Lloris qui a été souvent décrié durant cette compétition. Donc, en pensant encore à sa bicyclette du joueur marocain et le sauvetage qu'il fait un peu comme l'Uruguay en 2018 sur sa ligne, c'était quand même assez beau de sa part. Et non, encore bravo au Maroc. On espère voilà que. Ils vont arracher cette troisième place face à une équipe croate qui est revancharde.
Le carton jaune de Bouffal, quand même, très, 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 très immérité.
Oui.
Parce que c'est sur la faute d'Hernandez. Enfin, oui. Il y a débat, mais en tout cas, il ne mérite pas du tout.
C'est clair. Ça peut étifier dans l'autre sens.
Le débat peut exactement un peu vite vriller dans l'autre sens. D'ailleurs, il faut parler aussi de l'arbitrage qui était assez bizarre, on va dire. Pas à la hauteur de l'événement. Je ne dirais pas qu'il y aurait un pris parti, mais. Mais on avait un arbitre absent hier, c'était Monsieur Ramos en plus, donc il porte aussi un nom pimpant, qui doit être à la hauteur des gros événements. Donc c'était un arbitrage pas à la hauteur hier.
À l'image aussi de l'arbitrage sur cette compétition, qui est, je trouve, pas à la hauteur aussi. Il y en a très peu d'arbitres qui sont à la hauteur de l'événement sur cette Coupe du Monde.
Et en fait, c'est parce qu'il y a une hétérogénéité en fait au niveau de l'arbitrage. Il y a les arbitres européens qui sont peut-être surformés, qui ont l'habitude des gros matchs à pression. Puis t'as les arbitres peut-être qui viennent un peu issus d'autres confédérations, qui ont peut-être un peu plus de mal à gérer ce type de match à gros enjeu avec l'interaction avec la VAR, etc. Donc, mais c'est aussi une bonne opportunité en fait pour les faire progresser. C'est aussi ça la Coupe du Monde. C'est pas que des robots quasi parfaits. C'est aussi des Ramos, des Gassama où on voit où on peut voir des limites et on peut voir aussi ce charme de la Coupe du Monde. On peut dire aussi le charme de la Coupe du Monde et arrêter de dire le charme de la CAN à chaque fois qu'il y a des imperfections.
Voilà.
Donc ouais. Après pour en revenir à Bouffal, moi je pense que j'aurais aimé Regragui. Enfin là c'est plus une option qui tout double. J'aurais préféré voir un peu plus prendre un peu plus de risques que d'être conservateur en le faisant sortir et en faisant rentrer des joueurs, on va dire, quasiment inoffensifs.
Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Yacine? C'est vrai que le Maroc, qui avait l'habitude d'avoir cette forteresse à ne pas prendre de but, se retrouve là, bim, à se prendre un but au bout de 5 minutes. Et quand on connaît la force de l'équipe de France, c'est compliqué. Hein.
Il l'a dit, de toute façon, Yacine, on voit de toute Saïs un peu diminué. On voit qu'il n'est pas à l'aise, même si ça ne se voyait pas vraiment à l'écran, mais on voit à un moment donné
dans ses courses,
qu'il voit qu'il y a quasiment des grimaces sur son visage. Et après, tu le sors et tu fais rentrer deux quasi-novices à ce poste de défenseur central qui était la pierre angulaire du projet Regragui. Donc, forcément, il va avoir des bouleversements. Et il y a le changement de système aussi. Il a dit Yacine, c'est aussi très important. Donc voilà, il y a eu plein d'éléments perturbateurs concernant le Maroc hier. Je pense qu'ils auraient aimé aborder le match d'une autre manière, dans de meilleures conditions.
Est-ce qu'une question après qui peut se poser, est-ce que la gestion aussi émotive de l'événement, est-ce que ça n'a pas joué aussi? Parce qu'on voit un Boufal qui était plus que nerveux, un défenseur, le défenseur El Yamik, je crois, qui se fait...
On peut poser la question justement à Yacine, justement. Ouais. Rafik, c'est quand même pas anodin, demi-finale de mondial.
Pression populaire derrière, grosse pression sur les épaules.
Tu es beaucoup plus sollicité qu'en début de compétition. Est-ce que ça a pu peut-être jouer aussi sur...
Bien sûr, parce qu'il y a deux éléments importants. C'est que déjà l'équipe type du Maroc a beaucoup joué, puisqu'ils font les trois matchs de poule, alors que la France a déjà fait tourner sur le troisième. Tu fais une prolongation, donc il y a la fatigue qui arrive. Mais la gestion émotionnelle, évidemment, parce que même si... au début de la compétition, évidemment que sûrement que le sélectionneur rêvait à ça, mais personne ne les voyait aller jusque là. Et quand tu arrives à deux matchs du bout de la compétition, en fait c'est tout ou rien. C'est à dire que soit tu te dis c'est que du bonus et on y va, on se lâche, ou soit il y a une gestion émotionnelle plus importante et tu te dis ça sera notre chance, c'est peut-être la seule fois on va arriver en demi-finale, et la pression tu te la mets un peu tout seul. Ouais, il y avait une grosse attente parce que tu sors quand même d'un beau parcours. L'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Croatie, c'est pas rien. Donc voilà, je pense qu'ils y ont cru. Et voilà, je répète, moi, c'est ce début de match qui plombe leur demi-finale. Ça veut pas dire qu'il serait passé. Mais peut-être qu'ils auraient pu y croire un peu plus longtemps.
Exactement. Plus le 0-0 aurait duré longtemps, et plus ça aurait penché côté marocain. Mais après, voilà, il y a eu des joueurs, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de leur demi-finale, peut-être par rapport à la gestion émotionnelle, à la pression. Ziyech, je l'ai trouvé bon, moi, Ziyech hier. C'est Bounou que j'ai trouvé un peu effacé. Oui. Amrabat aussi, peut-être un peu trop nerveux. Boufal, alors que c'est des joueurs d'habitude qui sont sûrs de leur force, qui sont stabilisés avec un plan de jeu, et là, je les ai trouvés pas à leur habitude.
Un Ziyech, par exemple, moi je pense, c'est quand même un tour entre guillemets le franchise player de ton équipe, ta caution technique. Mm-hmm. Et est-ce qu'il a apporté quelque chose sur ce match? Pas à la hauteur des attentes
qu'on attend d'un joueur de ce niveau.
En fait, là, le Maroc a joué avec plus la possession que d'habitude. Donc là, il devait faire le jeu. Ziyech, c'est pas un joueur qui prend la vitesse, c'est un joueur qui fait le jeu. J'avais l'impression que la France jouait très bas. Mais sinon, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Il a fait 2-3 passes, entre guillemets, lumineuses. Il était présent dans la surface. Il a certes pas tenté, mais après, on va en parler justement. Mais la défense centrale, le trio Loris, Konaté, Varane aussi a été exceptionnel. Là, c'était costaud. Puis il avait un client, Hernandez, qui a laissé des espaces derrière lui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas fait un si mauvais match que ça.
Merci Mourad. 0153 48 3000, si vous voulez réagir, Ranto est là à attendre vos appels. On se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Sport, Beurre FM, 19h30, 21h, en cette période de mondial. Et oui, la Coupe du Monde qui déjà touche à sa fin. Un mois de passion, un mois de football, un mois d'émotion.
Un mois de boycott.
Avec des belles audiences, c'est un boycott. Hein. Boycott, mais belles audiences.
Les audiences ont explosé, Mourad, si on peut se permettre. La France qui a éliminé le Maroc 2-0 hier soir, Hernandez et Kolo Muani. Allez, on passe à la deuxième rubrique, la chronique à la source.
Time Sport. La chronique à la source.
Oui. Rafik.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme d'habitude, sur cette chronique, on fait la place belle au football amateur, là où tout commence, et là où tout a commencé pour tous les joueurs et toutes les joueuses aussi qu'on voit sur les terrains en Europe et sur tous les week-ends. L'objectif, donc, de cette chronique, c'est de mettre la lumière et de montrer aussi les valeurs et les difficultés auxquelles sont confrontés tous les éducateurs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Yacine Amened, une personne reconnue dans le monde amateur, dans le monde footballistique de manière générale, et qui a côtoyé aussi le milieu professionnel. Et qui, en plus de ça, a réussi à mettre des mots sur les mots MAUX du foot français. Donc, on va laisser la parole à Yacine pour qu'il puisse, dans un premier temps, se représenter et représenter un peu son cursus et son parcours au sein du foot.
Ouais, donc aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça fait une vingtaine d'années que j'entraîne. J'ai entraîné à Cachan, à Choisy-le-Roi, à Lusitano Saint-Maur, à Chartres, à Évian-Thonon-Gaillard. À part à Choisy-le-Roi où j'étais sur les seniors, j'ai toujours été sur les jeunes parce que c'est ce qui me faisait, ce qui me donnait le plus de joie et ce que j'avais envie de partager avec les jeunes. Voilà, j'ai passé tous mes diplômes à la Fédé, donc jusqu'au DEF, donc UFAA. Voilà, et puis à côté de ça, je suis aussi chroniqueur pour Paris United et le club des 5.
Très bien. Et tu as justement écrit un dernier ouvrage qui est on va dire, titre très explicite, hein, Les hors-jeux du football français, le coup de gueule d'un éducateur. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à coucher sur le papier tous les problèmes qu'on peut rencontrer tous les week-ends et en milieu de semaine sur les terrains amateurs?
Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ma réflexion et mon parcours. Il y a les idées que j'ai sur ce que doit être le foot, et notamment dans le monde amateur et chez les jeunes. Alors, ça va être pour certains inaudible aujourd'hui parce que la France est une deuxième fois en finale de la Coupe du Monde, et on va dire que finalement, je me plains de choses qui n'existent pas, peut-être. Mais quand on gratte un peu, on va un peu plus loin que la façade d'équipe de France. On se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde amateur. Des problèmes de violence, des problèmes de comportement, des problèmes de parents, des problèmes d'éducateurs, des problèmes de présidents, des problèmes de fédérations et de ligues qui font pas leur travail. Et tout ça, en fait, ça me pose problème parce que moi, je vois le football comme, évidemment, quelque chose qui peut permettre d'accéder à l'ascenseur social, mais en réalité pour combien de joueurs? Finalement, ce qu'on doit faire nous en tant qu'éducateurs dans le foot, c'est quoi? C'est amener du bonheur aux enfants, les faire progresser, qu'ils prennent du plaisir à jouer au foot, et puis après, bah, s'ils arrivent à aller jusqu'au milieu professionnel, tant mieux pour eux. Mais notre objectif, ça doit pas être d'emmener un joueur jusqu'au professionnel. Notre objectif, c'est d'avoir 60 gamins et qu'ils prennent tous du plaisir à venir aux entraînements, qu'ils soient heureux d'être là, qu'ils soient heureux d'être ensemble. Moi, je vois trop aujourd'hui de clubs où, je vais prendre un exemple concret, les U11A, c'est un club dans le club. C'est une entité, ils sont avec un éducateur et on a l'impression qu'ils font pas partie du même club. Moi, ça me dérange. Ça me dérange par rapport au fait que quand j'ai connu le football, on était des pupilles, alors on va dire des U11, mais on était les U11 du club. Moi, quand je prends une licence, je prends pas une licence avec Nicolas ou Mohamed en tant qu'éducateur. Je prends une licence dans un club à Cachan, à Choisy, à Bagneux, mais je prends pas une licence avec un éducateur. Ça me dérange. Ça me dérange quand un éducateur quitte un club et qu'il emmène une équipe avec lui dans son nouveau club. Ça me pose problème, et ça me pose problème par rapport à l'éducateur. Ça me pose problème par rapport au club qui reçoit tout le monde, et ça me pose problème par rapport aux parents qui quittent ce club. Voilà, c'est toutes ces problématiques.
C'est un cercle vicieux.
Voilà, et
toute une chaîne aussi.
Pour terminer, évidemment, les problèmes de comportement autour des terrains. Moi, quand je vois des parents hurler sur des gamins, et les éducateurs aussi d'ailleurs, parce qu'on rate une passe, parce qu'on rate un but, j'ai envie de dire deux choses. La première, j'aimerais bien vous voir jouer au foot, parce qu'apparemment vous ratiez rien du tout, donc je sais pas ce que vous faites là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de mettre autant de pression sur un gamin parce qu'il rate une passe? Et puis c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a fait écrire ce livre, parce que j'avais envie de partager ça, et parce que aussi avec les échanges que j'avais avec d'autres éducateurs, je me rendais compte que j'étais pas tout seul, donc voilà.
Ah, très bien, David. On va dire plus que complète ta réponse. Au niveau des comment ça s'appelle, justement, les problèmes, tu as mis un peu en exergue aussi un des problèmes, malheureusement, qu'on a aujourd'hui sur les terrains, c'est les parents. On va dire le projet Mbappé, il gangrène le foot français aujourd'hui, et du coup, toi, quand tu étais éducateur, comment t'arrivais justement à gérer cette relation avec les parents?
En fait, je pense qu'il faut être très très dur, entre guillemets, dès le début. C'est-à-dire qu'il faut jamais laisser les parents ouvrir une brèche, parce que c'est là que c'est foutu. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première, c'est de faire prendre conscience aux parents, notamment dans les réunions de début de saison, que leur enfant est pas terminé, que leur enfant va apprendre à jouer au foot, qu'il va progresser, qu'il peut se passer plein d'éléments entre 10 et 17 ans. Il y a des enfants très bons qui arrêtent le foot parce qu'à un moment donné, ça les intéresse plus. T'as des enfants censés être moins bons à 9 ans et qui d'un coup à 15 ans passent devant tout le monde pour plein de raisons, parce qu'ils ont un déclic, parce qu'ils tombent sur le bon coach, parce qu'ils tombent sur le bon club, parce que eux d'un coup ils ont compris des choses dans le foot. C'est comme à l'école, hein. À l'école, il y a des élèves en cinquième qui en maths ont des problèmes, et puis d'un coup en troisième ils sont meilleurs que les autres. Bah parce qu'il y a des déclics dans la vie. Personne n'a de progression linéaire. Mais évidemment que les parents sont un problème parce qu'en fait ils mettent une pression qui est énorme sur leurs enfants pour monter dans ce fameux ascenseur parce que tout le monde pense que parce que c'est aussi de la faute des médias. Pas dans le sens c'est toujours de la faute des médias, mais dans le sens où on raconte que les belles histoires, voilà. Oui. Quand on nous raconte l'histoire d'Mbappé, de Bondy, etc., bah oui, ça fait rêver tout le monde, sauf qu'il faudrait aussi, pour un peu rétablir l'équilibre, raconter les histoires de gamins qui étaient surdoués, très bons, qui marquaient peut-être 40 buts par saison en U13, qui ont arrêté le foot, qui ont été dégoûtés du foot, qui n'avaient plus envie de jouer pour X raisons, qui sont peut-être blessés aussi, donc tu peux pas arriver au bout, parce que le foot c'est aussi athlétique, donc parfois il y a des choses qui t'empêchent d'aller plus loin. Il faut pas raconter que les belles histoires. Et là on a l'impression qu'il y a que des belles histoires. Donc les parents pensent que quand vous jouez au foot, bah, à l'arrivée il y a que la belle histoire qui existe.
Excuse-moi. Non, ça me fait penser à une anecdote. Je sais pas si je pense que Yacine doit connaître. Si vous connaissez Zizek Belkebla, qui est, je crois,
à Aubervilliers,
exactement. Et il me disait qu'il y a dans beaucoup de clubs, on va dire formateurs de l'Île-de-France, il y a beaucoup de dans les clubhouse de maillots affichés ici à évoluer. J'ai n'importe quoi.
Ouais, tel joueur pro Zidane, et tout.
On va pas citer les clubs. Et Zizek me disait, ben lui, justement, à Aubervilliers, au club municipal du FC Aubervilliers, ben justement, il y avait des cadres en disant, ben ici a évolué un médecin, un avocat, une infirmière, un docteur. Voilà, ce genre de trucs. J'ai trouvé ça hyper sympa. Ça permet justement de sortir de tout ce qui est, de ces projets Mbappé, qui gagnent le football, comme tu l'as dit, et puis de former avant tout des adolescents responsables et potentiellement de futurs adultes responsables. Donc j'ai beaucoup apprécié la démarche.
Mais parce qu'en plus, si je peux rajouter ça, c'est vite fait, cette démarche-là, elle est intéressante dans le sens où, malheureusement, en fait, pourquoi les clubs mettent ces maillots ? Parce qu'ils savent que c'est ce qui va attirer les joueurs. Et ces clubs-là aussi profitent des petits clubs en dessous, qui ont 2, 3, 4 bons joueurs, mais qui sont plus petits, et ils attirent tous ces meilleurs joueurs. Et après, ils nous font croire que ce sont les meilleurs clubs d'Île-de-France. Mais c'est normal, puisque tu as recruté 2 joueurs à droite, 2 joueurs à gauche, 2 joueurs là, et puis tu te retrouves avec les 8 meilleurs du secteur. C'est facile, j'ai envie de dire. T'es pas entraîneur, t'es recruteur. Donc voilà, et malheureusement, ces maillots-là, d'anciens joueurs passés par le club qui sont devenus professionnels,
ça alimente la machine.
Bah c'est le marketing.
Exactement.
Ça alimente la machine.
Moi, je les vois un peu comme dans la finance, les sociétés qui font des croissances par acquisition. Ils achètent des petites boîtes et ensuite ils affichent leurs chiffres en disant, ben voilà, on a 30% de croissance. Alors que c'est grâce à cette petite boîte que tu les as fait.
Ouais. Ce
que
je veux dire. Les effets leviers derrière.
Exactement.
C'est ça. Et du coup, oui, justement, là-dessus, c'est l'enjeu en fait financier qui se joue à tous les niveaux. T'as le président qui voit derrière la petite prime qu'il peut recevoir s'il y a un gros transfert plus tard. T'as l'éducateur qui essaye de se placer, enfin, le coach. Hein. Enfin, c'est aussi des problèmes, ça. Faudrait peut-être qu'on en parle un peu, quelques mots là-dessus, sur ceux qui placent leur intérêt personnel et qui essayent de percer à l'étage au-dessus en se disant, ben, regardez tous les résultats que j'ai eus avec mon équipe. Je peux taper plus haut et je peux aller plus loin dans ma progression et ma trajectoire. Et derrière, t'as aussi toutes les familles qui sont, entre guillemets, qui croient en fait au foot pour sortir en fait de la situation dans laquelle ils sont et qui pensent que c'est l'euro million en fait, hein, l'enfant qu'ils ont. Donc là-dessus, les coachs, pourquoi on arrive à avoir des coachs dans les clubs qui passent l'aspect, on va dire, compétitif tout en haut et qui oublie l'aspect éducatif qui doit être le premier, en fait?
Pour plusieurs raisons. La première, malheureusement, c'est que la visibilité, on l'a qu'avec les résultats. Parce que on a des gens dans les clubs qui viennent pas voir les gamins et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les résultats. Donc, au bout d'un moment, vous êtes jugé là-dessus et vous vous dites, bah ok, puis pour avoir une reconnaissance, il faut que j'ai des résultats. Et ben, on va jouer la gagne. Parce que mon président, ça l'intéresse pas de voir que mes gamins, ils s'éclatent et qu'ils progressent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir si j'ai gagné ou perdu. Et quand j'en ai marre que deux samedis de suite, on vient de me dire, ah, t'as perdu là-bas, t'as perdu 2-1 là-bas, bah, je vais dire, ok, bah, maintenant, je vais aller gagner les matchs et puis on va arrêter de me prendre la tête. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on a aussi des éducateurs qui sont mal rémunérés, il faut le dire, dans les clubs. Et là, je vais accuser tous les clubs. La plupart qui donnent des salaires à des joueurs très moyens en R2, en R3. Mais donner l'argent aux éducateurs, c'est eux le fonds de commerce de votre club, c'est eux la vie de votre club. C'est pas les joueurs qui passent dans votre club en R2, qui prennent 800 balles par mois et qui vont partir l'année prochaine parce que le club à côté leur donne 900 et que vous êtes descendu R3. Donc arrêtez de donner de l'argent à ces joueurs-là. Si vous en avez, tant mieux. Mais à un moment donné, s'il y a un choix à faire, il faut le faire sur les éducateurs. Et si les éducateurs, à un moment donné, cherchent le gamin qui va leur permettre de gagner un peu mieux leur vie, c'est parce que quand on vous donne 200 euros par mois pour faire deux entraînements un samedi, que ça vous prend tout le samedi, c'est un investissement, hein, de s'occuper d'enfants, même si c'est une passion. C'est un investissement, c'est une responsabilité. Vous avez des gamins le week-end où vous partez en déplacement. Il faut s'occuper d'eux, il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose. Donc, c'est pas rien. Aucun le fait par passion. Mais je trouve que s'il n'y avait pas d'argent du tout, ce serait pas un problème. Mais il y a de l'argent. Sauf qu'il est mal utilisé par les clubs. Donc, à un moment donné, bah oui, tout le monde a envie de mieux vivre. Quand on vous donne 200 euros, tu te dis, bah oui, bah ok. Bah si moi je trouve un bon gamin, qui a un potentiel, je vais essayer de me glisser dans son entourage pour un peu plus loin dans sa carrière récupérer aussi.
Mmh. Voilà. Il y a aussi des trucs qui ont disparu par rapport à ma génération. C'était les sentiments d'appartenance au club. Je me rappelle, moi, quand j'étais Benjamin, par exemple, c'était limite un rêve d'évoluer avec l'équipe A, l'équipe Fagnon de la ville où je joue. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité. Ben, si ça ne va pas dans tel club, ben, il suit l'entraîneur qui va partir ailleurs.
Il y a les changements de club. Il y a les changements de club intempestifs qui sont problématiques. Mais je pense que les clubs aujourd'hui ne font plus ce qu'il faut non plus pour que le gamin s'identifie. Je vais donner un exemple rapidement que je donne régulièrement. C'est que quand on était jeune, quand moi j'étais pipi, par exemple, les cadets, on va dire, allez, pour reprendre les catégories d'aujourd'hui, quand j'étais U11, les U15, ils venaient voir les matchs, on se connaissait, et ils connaissaient les gamins U11, et les U11, ils connaissaient les U15. C'est vrai. Aujourd'hui...
Il y avait le Matra, non ?
Le Maratra, exactement.
Le Maratra.
Bah oui, on jouait tous ensemble au même endroit, on se regardait, on partait ensemble en quart, on revenait ensemble en quart, tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, vous avez des clubs où si vous prenez 5 U11, vous lui dites, cite-moi 5 U13, je suis persuadé, s'il n'y a pas le frère dedans... Il vous citera pas de joueurs parce qu'ils les connaissent plus.
C'est en silo, ouais, c'est exactement.
Voilà, on vient faire, on vient consommer. Voilà, je viens au foot avec mes chaussures, je fais mon entraînement, je rentre chez moi, je connais pas la vie du club, je sais rien. Et là aussi, les clubs ont à un moment donné un comportement à avoir. On doit organiser des choses pour que le gamin s'identifie à son club, aux autres joueurs, que tout le monde se connaisse. Et ça, on l'a plus.
Et justement, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire et ce que tu viens de dire aussi également, Mourad, sur la segmentation entre les différentes catégories, ça se rejoint aussi dans le projet de jeu. Tu passes d'une catégorie, on joue d'une façon, la catégorie d'après, il n'y a pas de continuité. Et du coup, comment tu veux que le petit, il progresse et il ait une progression linéaire si derrière, d'une catégorie à une autre, ben c'est des philosophies de jeu qui sont complètement.
Tu passes de Mourinho à Guardiola.
Voilà, on comprend pas.
C'est moins grave, mais en fait, moi, je pense que le vrai problème, il vient du fait que les éducateurs non plus ne s'identifient plus. Les éducateurs restent un an, ils s'en vont. Ils veulent suivre leur catégorie absolument. Alors, comme d'habitude, hein, ils ont leurs joueurs, leur groupe. Et finalement, il y a des gamins qui progressent en dessous, mais auxquels on fait pas attention parce qu'on a notre équipe, qu'on connaît tout le monde, on a des affinités qui se créent. Il y a tout ça qui est problématique. Et moi, j'avais essayé de mettre en place, et c'est compliqué de changer les éducateurs en cours d'année, de catégorie, parce que justement, pour éviter d'avoir cette attache, avec des U11 et avoir un autre regard en cours de saison, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui vont se révéler avec un autre éducateur. Voilà, mais c'est compliqué à mettre en place pour des raisons d'horaire, hein, parce qu'il y a des gamins qui s'entraînent, des éducateurs qui sont disponibles par exemple le lundi à 18h et pas le mardi. Bon, voilà, c'est compliqué aussi.
Il y a une pratique, moi, qui m'a surprise. J'ai aussi mon fils qui est inscrit dans un club et j'ai découvert une pratique qui n'existait pas à mon époque. Je voulais avoir l'avis de Yacine, c'est l'interdiction des parents de pénétrer dans l'enceinte, de rester en dehors derrière les grillages. Et ensuite, on confie notre enfant aux éducateurs et ensuite, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires, derrière, etc. etc. Bon, je ne sais pas si, pour quelles raisons ils ont mis en place ce type de dispositif.
Bah, il y a une raison.
Je voulais savoir ce que t'en pensais.
Alors, la raison, déjà, elle est très simple, c'est que il y a trop de parents aujourd'hui qui se mêlent des séances. Mmh. On a l'impression qu'ils connaissent tout. Ils savent quand on a fait une mauvaise séance ou pas, ou une bonne séance. Mais aussi parce que ils sont tellement intervenants qu'ils parlent à leurs enfants pendant la séance. Et nous, on met en place quelque chose. On n'a pas besoin du commentaire du père. Encore une fois, on met notre enfant en difficulté quand on fait ça. Parce que l'enfant, il écoute qui? Son père, avec qui il vit et qui va peut-être lui prendre la tête en rentrant à la maison. Ou il écoute l'éducateur qui est en train de lui apprendre quelque chose.
Ça, avec Ramadan, il a un double discours après l'enfant.
C'est une position qui est très, très compliquée pour l'enfant. Et on a donc des parents et on a donc des enfants qui sont toujours en train de tourner la tête vers leurs parents pendant la séance. Et c'est très dur à gérer. Donc effectivement, il y a des clubs qui ont pris l'extrémité en disant bah, on fait plus rentrer les parents. Moi, je pense qu'il faut un vrai dialogue parce que malgré tout, c'est votre enfant, vous avez le droit de voir ce qu'il fait. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre ok, on vous laisse. Par contre, à un moment donné, si on trouve que vous êtes trop intervenant, on interdira. Mais vous le savez d'avance. Voilà, exactement. On peut pas interdire d'entrer aux parents de pas suivre leur enfant.
Mais après, réaction radicale à des comportements radicaux aussi.
Oui, mais on laisse au moins une chance.
Oui, oui, exactement. C'est de la pédagogie, je pense.
Ouais. Pour rebondir, c'est vrai que des fois, ce qui n'est pas évident, c'est tu te retrouves, toi, à être sur le banc de touche, donc tu donnes les consignes, mais ton latéral droit, il a son papa. Ouais,
et qui lui donne aussi
autre chose. et ça te flingue ton.
Puis l'autorité, comment
bien sûr. Parce qu'encore une fois, nous, on sait où on va. Et le père, lui, par contre, il a une idée très précise de ce qu'il veut voir faire son fils. L'idée de tu tires au but alors qu'il a voulu faire une passe. Il doit marquer pour se mettre en valeur. Et nous, c'est pas ce qu'on va demander. Voilà, c'est compliqué.
Dernier exemple, moi, que j'ai dans mon équipe féminine, j'ai un effectif qui est extrêmement limité. J'ai une joueuse qui est certainement la plus talentueuse et qui est amenée à jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Sauf que j'ai pas de milieu défensif, donc je suis obligé de la faire jouer un peu plus basse. Et sauf qu'en fait, son père est venu me voir, mais après, voilà, on a discuté tranquillement, en me disant, ouais, ma fille, elle est pas heureuse, faudrait qu'elle joue en attaque et tout. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Yacine, les parents ont, pas tous, ont quand même en général une idée bien précise, alors que toi, t'as une vision d'ensemble, collective.
En fait, ils zooment à 150% sur leur enfant. Et ils prennent pas de hauteur, en fait.
C'est ça, tu vois, exactement.
C'est ça le souci.
Allez, on se retrouve juste après ça.
Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Sport, Time Foot, spécial Coupe du Monde 19h30, 21h en cette période de mondial avec mes consultants ce soir, Mourad, Rafik, sans oublier Yacine qui nous fait du bien. Yacine, il nous apporte quand même une plus-value avec la rubrique de Rafik. T'en as fini, Rafik?
Pour moi, j'avais fait le tour. Si vous avez d'autres questions et d'autres. D'autres éléments.
Je pense qu'avec Yacine, on peut parler des heures.
Ouais,
hein. Non, simplement du foot amateur.
Il faut appeler Vanessa, parce que je pense que derrière, on va prendre encore du créneau.
J'ai une dernière question, pour Yacine, justement. Quels sont les trois points importants qu'il faudrait changer ou évoluer pour qu'on puisse repartir, on l'espère, sur de bonnes bases dans le football d'en bas amateur?
Moi, je pense qu'il y a la première, c'est évidemment les présidents de club qui doivent remettre le club au centre de l'attention. Et arrêter de donner du pouvoir aux parents, dans le sens où évidemment que c'est aussi le budget du club qui en dépend, parce que c'est des licenciés. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer outre et se dire bah peut-être que pendant un an ou deux, on va perdre des licenciés, mais sur la durée, on va gagner parce que notre club va redevenir sain. La deuxième chose, c'est que je pense que les éducateurs, ils doivent aussi un peu prendre du recul et arrêter de croire qu'un match 11, c'est la finale de la Coupe du Monde. Si tu perds un match, tu vas rentrer chez toi, tout le monde ira au travail, à l'école, et il va rien se passer de plus. Prendre du recul sur ce qu'on dit aux enfants. On peut pas crier sur des enfants qui ratent une passe, qui ratent un tir, leur hurler dessus à chaque fois. Et puis la dernière chose, c'est évidemment la fédération qui doit prendre des sanctions quand il se passe des choses très graves dans les clubs. Parce que à force de croire que c'est la fatalité, bah c'est devenu quelque chose de normal. Voilà, il y a des clubs où ça se passe mal, bah ça se passe, oui, c'est normal, mais on est en 2022. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Alors je sais que les clubs et les fédérations ont un peu peur, mais il faut prendre ses responsabilités. Il y a des gens qu'il faut exclure du football parce que c'est eux qui font du mal. Voilà.
Merci Yacine. Mourad, tu voulais peut-être réagir.
Oui, j'avais une question pour faire un parallèle avec la presse portugaise qui avait dit moins de Ronaldo, plus de football. Moi, j'aimerais dire le contraire. Est-ce qu'on peut voir plus de Yacine dans le football amateur pour plus de football, justement? Est-ce que toi, tu as des ambitions un rôle peut-être prépondérant au niveau de la FFF, au niveau des ambitions personnelles, peut-être pour être un exemple? Parce que pour connaître un peu Yacine sur ses travaux, c'est pas que le foot amateur, c'est aussi une palette assez large. Donc voilà, je voulais savoir si tu souhaiterais appliquer un peu ce que tu as théorisé, entre guillemets, à travers tes livres, à travers tes interventions.
Oui, j'aimerais bien. Après, au niveau d'un club, si on me laisse travailler et que tout le monde va dans le même sens, pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai pas trouvé de projet où on me laisse travailler tranquillement. On me parle toujours à un moment donné des résultats. Voilà, donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Et encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que moi, je joue pour perdre les matchs. Hein. On est comme tout le monde, on veut tous gagner. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et au niveau de la fédération, évidemment, oui, mais quand on connaît le mode d'élection, etc., c'est tellement compliqué pour arriver là qu'il faudrait passer par quelqu'un et après, moi, faire des concessions avec d'être dans la politique, en fait, ça m'intéresse pas. Voilà.
D'accord, ok. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être soit en faire ou soit avoir le réseau qui en fasse pour qu'on puisse voir.
Juste pour rajouter un truc. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que peut-être qu'il faudrait aussi que ceux qui avec qui j'échange d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou autrement se bougent aussi, parce que c'est facile de toujours dire ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais à un moment donné, quand faut bouger, il y a plus personne.
C'est vrai, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi, mais dans toutes les interventions que je vois de Yacine, mais si je prends, enfin, il y a rien à changer par rapport à avant Covid et maintenant, quoi.
Donc il faut aussi se bouger, quoi. Faut y aller.
Et donc, les décisionnaires, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, voilà, à un moment donné, proposer des solutions au lieu que d'acter.
Se donner les moyens.
Acter les problèmes.
Ouais, voilà. Il faut donner des opportunités à des personnes comme ça qui ont des vraies valeurs et projets concrets à mettre en place et pas avoir juste la finalité du résultat. Comme il disait Bielsa, ce qui est important, c'est le chemin et pas forcément la finalité. Donc voilà, il faut aller au bout, allier le résultat avec la manière, c'est faisable aussi.
Allez, on passe au débat des socios.
Time Sport. La parole des socios.
Vainqueur du Maroc hier soir sur le score de 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. L'équipe de France va disputer, si je me trompe pas, mes amis, sa quatrième finale.
98, 2006, 2018 et là 2022.
Quatrième finale en 24 ans. Bon, il y a pas de Coupe du Monde chaque année, mais c'est quoi,
c'est tous les 4 ans, ça fait
c'est une finale sur deux, quasiment.
Sur 6 Coupes du Monde.
Ouais. C'est exceptionnel.
C'est toutes les Coupes du Monde que j'ai connues. Moi, je crois que la vraie première Coupe du Monde que j'ai découverte, c'est en 98. J'ai des vagues souvenirs de 94. Mais sinon, ouais, c'est une performance incroyable. Après, entre chaque Coupe du Monde, il y a des Euros, il y a aussi des matchs amicaux. Là, récemment, il y a des Ligues des Nations. Donc, ouais, c'est intéressant. On relève sur les Coupes du Monde la performance de l'équipe de France et notamment sur l'histoire récente, la performance de Didier Deschamps. D'ailleurs, qu'on félicite. C'est le pragmatisme à son paroxysme, c'est l'efficacité à l'état pur, etc., etc. Mais après, pour le romantique que je suis, moi, je reste quand même un peu sur ma faim. Il y a quelques petites taches d'ombre, on va dire. Je vais pas les étaler ici maintenant parce qu'on est au lendemain d'une qualification en finale, d'une bonne note. Mais ouais, c'est une performance incroyable sur le plan comptable.
Est-ce que la France est un pays de football? Lorsque l'on voit quand on fait l'ensemble, justement, quand on voit le résultat sur ces Coupes du Monde.
J'aimerais bien écouter Yacine là-dessus.
Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Déjà, en premier, après, je
Non, mais c'est. Attends, quand même. Quatre finales en l'espace de 24 ans. Sans parler des euros, on a gagné l'Euro 2000, on a été en finale en 2016, quart de finale en 2014, donc les résultats sont là. Est-ce que la France est le pays du football à travers le monde aujourd'hui?
Après, que je reviens aussi un peu sur le côté un peu, on va dire, romantique, hein. Moi, je suis plus attaché au fond de jeu, à un jeu, on va dire, un peu, entre guillemets, sexy.
Un peu comme les Pays-Bas qui ne gagnent pas grand-chose.
Voilà. C'est ça, mais voilà. Il est perdant magnifique. Mais voilà, après, on est dans une société où, voilà, les résultats, ils te donnent du crédit et de la caution. Et tant que tu auras des résultats, entre guillemets, t'achètes un peu la vérité. Et malheureusement, c'est comme ça. Tant qu'on aura des résultats, on n'aura pas forcément de modification de plan de jeu et d'ambition dans ce jeu-là, quoi. Donc, faudra s'y habituer, s'y accoutumer.
Yacine,
il y avait cette question très importante. ne l'oublie pas, il faut la poser à Yacine. Est-ce qu'on a un pays de football?
Oui, c'est ça, justement, oui. Yacine. Est-ce qu'on a un pays de football?
Non, on n'est pas un pays de foot. On a un pays de structure, de potentiel. Mais on n'est pas un pays de foot, c'est-à-dire que les gens au quotidien, on n'est pas l'Argentine, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas l'Italie, on n'est pas le Brésil. Voilà, on voit bien que le foot intéresse pendant la Coupe du Monde, mais avant, après, il se passe rien. On n'est pas un pays de football comme on l'entend nous, en tout cas ceux qui sont dans le milieu du foot. Par contre, évidemment que en France, on est un pays où on forme des joueurs, on a un potentiel qui est exceptionnel, on a des moyens structurels aussi qui sont énormes. Parce qu'il faudra jamais oublier que c'est aussi par les structures et quand on a des clubs, des centres de formation avec des budgets qui tournent entre 4 et 9 millions d'euros, on peut pas dire non plus que c'est pas un miracle ce qui arrive. La France a juste la chance par rapport à beaucoup de pays européens d'avoir une immigration qui est importante et une immigration qui est multiple, que ce soit du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Et donc à des profils qui n'existent pas ailleurs. En Espagne, en Italie, on n'a pas accueilli autant d'Africains. On n'a pas, voilà. Donc, elle profite de ce potentiel. Après, évidemment que moi, je suis, pas dire un ennemi de Didier Deschamps, mais presque, parce que c'est tout ce que j'exècre en fait dans le football. C'est-à-dire que c'est le pragmatisme poussé à son paroxysme. C'est le mec le moins humain. Je suis désolé, mais par exemple aujourd'hui, on peut nous vanter la Coupe du Monde de Olivier Giroud.
Sauf que moi, je vous rappelle qu'à 6 mois, Olivier Giroud faisait pas partie du groupe et que Deschamps voulait pas en entendre parler. Et que, bah, il est tellement pragmatique qu'à un moment donné, il est capable de revenir sur son idée, de le prendre quand même et de faire croire en lui faisant des câlins que le mec est important. Voilà, c'est sa force. Tant mieux pour lui, hein, bravo, s'il arrive à le faire et que les joueurs vont dans son sens à l'arrivée. Il est en finale de Coupe du Monde et on peut que se taire.
Mais parce voilà. Que, parce que ça arrange peut-être tout le monde. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Deschamps l'est. Et Giroud aussi.
Bien sûr. Mais c'est tout ce que je déteste du côté humain. Et puis la dernière chose, c'est évidemment que, je pense qu'il faut tirer une croix. Et malheureusement, parce que moi aussi, je suis un amoureux du jeu. Je pense qu'il faut tirer une croix, en fait, surtout sur les sélections, au niveau du jeu. Parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une période. Il y a deux choses. Il y a deux éléments bien distincts. Il y a le côté émotionnel. Et en fait, finalement, les sélections, elles jouent aujourd'hui pour une majorité de la population qui est différente de celle qui suit les clubs au quotidien. Et donc, eux, ce qu'ils attendent, c'est la victoire. Que tu joues bien ou pas, à la limite, ils comprennent même pas ce que c'est de bien jouer. Eux, ils veulent la victoire et ressentir des émotions. Donc, déjà, je pense qu'il faut se détacher de ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, avec la multiplication des matchs, les blessés, etc., on voit bien, par exemple, que le groupe France qui était prévu ou que tout le monde avait un peu prévu il y a 8 mois, c'est pas le même qui est là. Et même le 11 titulaire, c'est même pas le même qu'on avait prévu il y a 3 mois. Donc finalement, comment travailler comme ça? C'est pratiquement impossible de mettre en place quelque chose. Et je crois que même à l'image du Maroc, il faut s'habituer à ce que les sélections soient des aventures humaines sur des courtes périodes, voilà, 7 matchs, que ce soit la CAN, l'Euro, la Coupe du Monde, et se dire bah finalement j'attends plus grand chose du jeu, mais on va être que dans l'émotion. Voilà, est-ce qu'on est capable de retourner une situation, le suspense, aller en demi-finale comme le Maroc. Et puis, on reparlera du jeu quand ce sera les clubs, quand ce sera la Ligue des Champions. Mais je pense que sélection aujourd'hui, ce sera comme ça.
Je suis pour rejoindre Yacine. On a fait sur cette Coupe du Monde, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre guillemets, on a fait main basse sur le beau jeu où c'était peut-être la mort lente de la possession de balle versus le pragmatique à fond la caisse. Et même moi-même, ma vision du football a changé où j'ai même appris à apprécier aujourd'hui justement des blocs bas, des équipes qui jouent en transition parce qu'elles te procuraient de l'émotion. Et parce qu'on est dans un contexte de Coupe du Monde, aujourd'hui on est un peu en mode des guerres mondiales, on va dire, modernes, où c'est le patriotisme, l'humilité, que des valeurs émotionnelles qui vont faire que tu vas passer les caps. Donc voilà, après le beau jeu, je pense que pour le beau jeu, ça veut rien dire quand t'es en Coupe du Monde. Des équipes comme l'Angleterre, je pense que l'authenticité aussi, c'est important. Des équipes comme l'Angleterre qui ne jouent pas comme des Anglais, qui ont la possession de balle face à la France, qui a un vivier inépuisable. Pour moi, c'est jouer contre nature, c'est se dénaturer. Donc moi, c'est des choses voilà que j'aime retrouver. Je veux pas que les Anglais reviennent à du kick and rush, mais j'ai pas aimé, par exemple, la prestation de l'équipe de France face à l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays qui a inventé le football, certes, mais c'est aussi le pays du kick and rush. Donc moi, j'ai trouvé ça dommage.
Tout le monde pratique un peu le même football malgré tout aujourd'hui. Voilà, à quelques différences près ou nuances, on a quand même un football qui est très globalisé dans l'intensité,
Exactement.
On a plus d'identité, quoi.
Et puis, donc voilà, j'aime bien les identités un peu que les Espagnols jouent comme les Espagnols, les Anglais, les Français.
Les Espagnols se sont peut-être ramassés, si je peux me permettre du terme, mais ça fait partie peut-être Yacine, Rafik et Mourad, d'une des seules nations justement à garder cette identité encore peut-être.
Ils ne la réuniront pas. Peut-être mettre l'accent sur des axes d'amélioration, peut-être former des avant-centres un peu plus, parce que depuis 2008, j'ai l'impression que
depuis Morientes, 2010,
David Villa un peu plus, ils ont plus la culture de former des avant-centres, alors qu'il y avait des Morientes, des Raoul, etc., des avant-centres de, on va dire, assez pivots, racés, qui pullulaient en Espagne et qu'on voit de moins en moins.
Kiko.
J'ai l'impression que exactement, quand
Tristan.
On voit moins. Kiko. Ouais.
Diego Costa, c'était quand même des mecs qui ont excellé dans la surface de réparation.
Mais justement, est-ce que pour en revenir un peu sur cette homogénéisation des plans de jeu, c'est aussi un peu le résultat de la globalisation du football où tu vois tous les coachs qui partent un peu, les joueurs aussi qui partent dans différents championnats et tout ça.
C'est ce que j'ai dit,
un melting pot
justement,
et qui fait qu'au final, ben, t'as plus justement d'identité parce que tout le monde va essayer de.
Oui, maintenant Guardiola, il est en train de choper le même accent que Sir Alex Ferguson. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est les effets néfastes de la mondialisation aussi. Il était au Bayern, Ancelotti, il parle allemand, il parle français, il parle espagnol, couramment, il parle italien.
La Croatie, Mourad, Rafik, Yacine, m'a l'air d'avoir. Enfin, je vous entends. Ouais. Hein, a un petit peu encore cette identité, enfin de par leur culture aussi, c'est-à-dire que
ce jeu, beaucoup
d'attaques placées, qui reste là, et c'est peut-être une avec l'Espagne, une des seules nations encore
Quand tu fais le tour, après, t'as un peu. Même les Brésiliens, ils ont perdu leur magie, un peu. Je trouve, hein, sur cette compétition,
ils ont essayé de nous faire croire. Je pense que c'était
je trouvais ça
de la poudre aux yeux. Ils ont essayé de nous faire croire qu'ils avaient gardé leur identité samba.
Ça sentait faux.
Mais la Corée, tu vois. Juste pour rapidement, ouais. Le problème, c'est aussi que on a uniformisé les centres de formation un peu partout dans le monde. Et en fait, les Brésiliens aujourd'hui sont sortis du footballeur de rue qui arrivait dans les clubs. Et aujourd'hui, on crée des joueurs pour les envoyer en Europe.
Bien sûr.
Et le problème, c'est que à un moment donné, quand tu restreins tous ces joueurs dans leur créativité, dans ce qui faisait leur don au départ, tu as une photocopie de joueurs. Tout le monde a les mêmes milieux de terrain, tout le monde a les mêmes attaquants, tout le monde a les mêmes défenseurs.
Oui, voilà. Donc le Qatar exporte du pétrole, les Brésiliens exportent des Brésiliens, des joueurs brésiliens, et quasiment les mêmes profils. Et ils viennent se former en Europe, que ce soit Anthony du côté des.
Mais ils sont formés pour être exportés en Europe.
Exactement.
C'est plus pour être des joueurs brésiliens, ils sont formés pour être exportés en Europe parce que c'est ce qui va rapporter de l'argent au club.
Après, t'as des entrepôts à Donetsk, t'as des entrepôts un peu partout.
Pour revenir à l'équipe de France, sans Griezmann, Giroud, Mbappé et Lloris, l'équipe de France, même s'il n'y a pas de beau jeu, c'est les seuls joueurs qui sauvent.
T'as cité quand même peut-être 25% de l'équipe. Hein.
Ouais, ça fait déjà pas mal.
Griezmann et Lloris, c'est eux qui ont fait encore tout le boulot hier soir face.
Il l'a dit, Rafik.
Konaté.
C'est ça qui manque à l'équipe de France, c'est qu'on a plus cette solidité.
Et même Giroud l'a déclaré.
On avait en 2018 avec cette cohésion, ce beau jeu. Moi, je me rappelle le décalage.
Tu trouves que c'était du beau jeu en 2018?
Bah, quand même, contre l'Argentine, le match qu'on avait fait, même si.
C'était très efficace. Très
comme
Didier Deschamps, très pragmatique.
La passe que fait Varane à Mbappé, je crois, qui traverse tout le terrain, et Mbappé, il provoque le pénalty au début de match. Pardon, mais c'est du beau jeu. Une belle transversale, des choses comme ça, c'est ce qui manque à l'équipe de France.
En fait, pour moi, du beau jeu, c'est quand t'annonces que tu vas marquer un but. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, c'est en transition, c'est une prise de surprise, ça va très vite vers l'avant. Pour moi, c'est pas ça le beau jeu.
Elle se dirige vers sa troisième étoile, la France, ou pas? Ça resterait quand même exceptionnel. Une première depuis 60 ans. Et le Brésil, 58-62.
Après, à 90 minutes de la troisième étoile, on peut pas faire mieux aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'elle se dirige? Je sais pas, parce qu'il reste quand même un adversaire qui tient la route, reste un match à jouer. Il y a malgré tout des joueurs qui étaient pas là en 2018. Et qui vont aussi devoir gérer ce côté émotionnel dans un stade qui va être acquis à cause des Argentins. Voilà, beaucoup d'éléments, hein, mais en tout cas, ils sont à 90 minutes de la troisième étoile, ça c'est sûr.
Il y a plein d'enseignements à tirer de ce match contre le Maroc, et notamment un élément important, c'est de faire face au 12e homme. Il l'a dit, Yacine, il y aura le supporter argentin. Ça sera une bombonera bis, une bombonera arabe.
Qui n'ont pas les plus beaux chants du monde, par contre, qui ont une ambiance extraordinaire. Ouais. Ça, quand l'Argentine joue.
Ils ont fait totalement abstraction, l'équipe de France de.
C'est fou, hein.
Public marocain.
Est-ce qu'ils ont réussi
le coaching de Deschamps? Moi, je ne le voyais pas. On pensait qu'ils n'avaient pas de banc. En fait, ils n'ont pas de deuxième 11 avec les automatismes, mais ils ont un banc individuellement. Ils savent rentrer dans les matchs. Colo Muani, premier but.
44 secondes,
44 secondes après rentrée, le tour du monde en 44 secondes.
C'est ça.
Donc,
on y revient.
Voilà, il a un petit coup de. Juste après. Baraka, comme dirait Emmanuel Macron.
Juste après ça, on revient tout de suite pour parler justement de cette finale à venir France-Argentine. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h. Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et on se retrouve pour la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM, spéciale Coupe du Monde. On y va. Le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Mes amis, le mode pressing, on a parlé de l'équipe de France, on a parlé du Maroc. On va maintenant parler de l'adversaire des Bleus. C'est dimanche à 16h. L'équipe de France affrontera l'Argentine de Lionel Messi, vainqueur, on va dire, assez facilement, je mets les guillemets, de la Croatie 3-0.
Messi qui s'est pas entraîné aujourd'hui, hein. Qui a reçu une gêne musculaire, il s'est pas entraîné aujourd'hui. Alors, d'après ce que les médias argentins...
Notre reporter auto-réalisateur.
Direct de Buenos Aires.
Oui, je suis
Messi
en duplex.
Il a été conçu pour jouer ce match-là. Je crois que c'est le match le plus important de sa vie et de l'histoire du football argentin.
Il devrait jouer, il a été mis de repos aujourd'hui et demain, et on ne sait pas s'il va s'entraîner, mais en tout cas, il devrait jouer le match.
T'inquiète pas,
je vais dire une chose, même s'il ne s'entraîne pas, je peux me permettre, il est conditionné pour ce match, Mourad.
Bien sûr, c'est le match rêvé aussi pour le gouvernement qatari et la FIFA avec, on parle de Messi, mais il y a aussi Mbappé en face. Donc c'est peut-être la légende du football, Messi, qui vient imposer son sceau sur le football pour son dernier match international. Et derrière, et à côté, en face, Mbappé, l'héritage, l'avenir, et avec le dénominateur commun, le PSG en dessous. Donc pour moi, c'est la finale rêvée du Qatar et de la FIFA. Donc bien sûr que l'Argentine va arriver avec l'Argentine depuis le début, c'est des hauts et des bas, mais ils ont une vraie attitude. Ils sont tous mobilisés derrière un petit peu leur sélectionneur Scaloni, mais beaucoup derrière Lionel Messi. Ils veulent le faire sortir par la grande porte à tout prix, et ils seront comme des morts de faim le jour J. Donc je pense que ce sera en terre. On parlait du Maroc qui joue avec un gros, avec un cœur gros comme ça. Je pense que l'Argentine, ça va être un niveau au-dessus en termes d'intensité, même si sur le papier, pour moi, ils m'impressionnent pas. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient même pas dans le top 10 des clubs européens, mais ils jouent avec un gros cœur, ils vont jouer avec leur force, et ça va être un gros duel.
Après, voilà, ils vont s'appuyer sur la fameuse Grinta, hein, toujours comme ça, avec les deux pôles, notamment au milieu. Bon, c'est pas le plus talentueux, c'est pas le vendeur de rêve, mais il fait le taf quand même. Et derrière, tu as quand même un Messi qui est de plus en plus vocal, qui prend de plus en plus de place au sein du groupe.
J'aime beaucoup ce Messi. Ouais. J'ai découvert un Messi, enfin, que j'ai beaucoup aimé, avec du leadership, ouais. Avec un peu d'impolitesse. Avec
du caractère
tout simplement, ouais. Et c'est ce qui manquait. C'est pour ça que, même si on est tous fans de Messi bien sûr, mais il manquait un
trop
peu
lisse,
ce
trop lisse, voilà, passé assaisonné,
ces petites épices qui me ferait apprécier un joueur comme Messi. Et là, on le retrouve totalement durant cette Coupe du Monde.
Et tu as ce virage qui a été pris déjà depuis la dernière Copa América, où quand tu vois le reportage qui a été fait en immersion là, dans le vestiaire, tu vois les petites causeries qu'il faisait dans le vestiaire pour galvaniser ses groupes et son groupe et tout. Moi, je m'attendais jamais. Je me suis dit, on m'a toujours dit, Messi, il est dans son coin, discret, en retrait. Il parle avec ses pieds entre guillemets. Mais là, tu le vois vraiment en mode meneur d'homme. Je sais pas ce que t'en penses, Yacine.
Oui, il y a un vrai changement dans son. Mais je pense que c'est la Copa América qui change tout, parce que il avait besoin d'un titre pour asseoir en fait son histoire avec l'équipe d'Argentine. Parce que faut savoir quand même qu'en Argentine, il n'était pas vraiment considéré comme un vrai Argentin, etc. Donc. En plus, tu bats en finale le Brésil, même si c'est que la Copa América, tu bats le Brésil en finale. Voilà, je pense que ça a changé son statut, la vision des gens autour de lui. Maintenant, sur l'Argentine, je pense qu'il y a, sur leur Coupe du Monde, il y a un élément qui est important, c'est ce premier match, parce que tu perds contre l'Arabie Saoudite, mais en réalité, quand tu regardes bien le contenu, tu dois mener 3-0 au bout de 30 minutes. Tu perds, et je pense que c'est ce qui conditionne le reste de la compétition, parce qu'on a vu une équipe d'Argentine qui a complètement changé. Déjà, il y a 5 changements entre la première équipe et la deuxième équipe de joueurs. T'as une équipe qui décide d'attendre plus bas. Rappelez-vous, en 2018, quand ils décident de venir chercher les Français à 60 mètres et qu'ils se font ouvrir sur chaque transition. Voilà, c'est une équipe qui a décidé de, entre guillemets, et j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait cette année, sur cette Coupe du Monde de calculateur, qui a décidé d'arrêter d'ouvrir des espaces, qui a décidé de laisser le ballon. On l'a vu contre la Croatie en demi-finale, la première demi-heure, avant le pénalty, il ne se passe rien du tout. Là, on s'ennuie. Il y a une équipe qui attend et une équipe qui fait tourner le ballon, mais où il ne se passe rien.
C'est le premier qui joue qui a perdu.
Non, mais voilà. Et on voit bien que les matchs, il se passe quelque chose après un but, mais avant les buts, il n'y a pratiquement rien du tout. Et en fait, cette équipe, elle est aujourd'hui capable de dire on ne veut pas du ballon, on va attendre, avec du Paredes, du De Paul.
C'est pour ça qu'il faut être en chose, d'ailleurs, Yacine, cette équipe. On parle de la configuration Coupe du Monde, joueur un petit peu, on dit moyen, un peu besogneux, mais ils sont en mode mission, les mecs, là.
Mais je pense qu'il y a une chose essentielle contre la France, là. Enfin, il y a deux choses. La première, ça va être la gestion émotionnelle, pas de la finale, mais du combat. Parce qu'on sait aussi que les Argentins peuvent vous faire sortir du match.
Qu'est-ce que j'aurais aimé en
jouant.
Je peux vous faire sortir du match très vite. Et il va falloir garder ses nerfs. Et par exemple, quand on voit un Théo Hernandez qui peut des fois être bouillant, il va falloir garder ses nerfs. Et la deuxième chose, ça va être finalement ce qui s'est passé contre le Maroc, mais il y a eu le but. Qui va vouloir du ballon,
c'est ça,
tant qu'il n'y aura pas de but.
Du coup, on s'oriente vers, vu que tu as quand même deux sélectionneurs qui sont en mode pragmatique à l'extrême, soporifique.
Bon, après des finales, il n'y en a pas eu beaucoup des belles non plus, mais je pense, moi, je m'attends. Tant qu'il n'y aura pas un but, je m'attends à une finale ennuyeuse, fermée.
Donc ça va se jouer au milieu du terrain, du coup.
Ça va être une bataille.
Donc Tchouaméni, Fofana ou Rabiot, va falloir.
Et comment vas gérer Messi, qui est en électron libre et qui redescend beaucoup, qui va mettre quelqu'un en one-to-one dessus, qui va le suivre.
Je pense pas. Non, mais Deschamps, c'est pas le genre de. C'est pas le genre à mettre quelqu'un en individuel et à couper en fait le système de son équipe. Je pense pas qu'il fasse ça. En revanche, par exemple, on peut très bien avoir un Dembélé qui démarre pas. Voilà.
Et revenir à 3 millions. Le dossier Dembélé à un moment donné, peut-être durant cette Coupe du Monde. Je sais pas, quand je prends le pouls un peu des médias, enfin sur les réseaux
déception.
Sociaux, dans différentes radios, ok, certains mettent en avant sa vitesse, mettent en avant ses feintes de frappe, mais après une feinte de frappe, généralement, il y a une tentative de frappe ou il y a une frappe. Il y a quelque chose. On attend peut-être d'un Dembélé d'être décisif dans les 20 derniers mètres. On attend d'un Dembélé d'apporter, d'être le pendant de Mbappé à droite pour diversifier aussi le danger. Et moi, quand je vois Dembélé avoir le ballon, je suis désolé, mais au moment où je dois faire une pause pipi ou une pause thé, ben, j'en profite quand c'est Dembélé qui a le ballon. Tu vois, parce que je sais qu'il ne se passera rien. Donc, dans les matchs comme ça, c'est à ce moment-là qu'on attend.
Le problème
Dembélé.
Le problème, c'est
je
que
Dembélé. Avec lui, mais
non, mais pour, ceux,
ressenti.
Pour ceux qui regardent les matchs du Barça, le problème, c'est que Dembélé va faire 15 différences sur 30 minutes, mais que dans le dernier geste, il y a une réussite. Donc, il se passe 14 fois rien, finalement. Mm-hmm. Et c'est le problème de Dembélé, parce que quand on voit sa qualité technique, sa vitesse d'enchaînement, la facilité avec laquelle il utilise les deux pieds, mais évidemment qu'on attend autre chose de ce joueur. Exactement. Ça, c'est clair.
Et puis même Dembélé, il est hyper fragile des cuisses. À chaque fois qu'il fait une accélération, c'est limite le claquage pour lui. On l'a bien vu, on va faire les
Je ne suis pas dans Minority Report, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup.
Ça va mieux, mais on attend plus d'un Dembélé capable vraiment de déstabiliser une défense, faire la différence à tout moment.
De faire les bons choix surtout. Parce que déstabiliser, il le fait. Franchement, il y a des accélérations, même à la Coupe du Monde, où il a fait mal. Mais dans les choix, la justesse des choix à la fin. Il n'y a pas ce qu'on attend d'un joueur à ce niveau-là.
C'est quand il faut frapper, il fait la passe. Quand il faut faire la passe, il frappe. Quand il faut faire à gauche, il la fait à droite. Des fois, les déstabilisations, elles sont trop basses.
Là, Coupe du Monde moyenne.
Il a épuré son jeu. Il a le meilleur exemple du monde qui est de l'autre côté du terrain. Donc, ils prennent exemple sur Kylian Mbappé.
Mais c'est pour ça que face à un 4-4-2 qui est très costaud du côté de l'Argentine, notamment au milieu avec Depaul, Enzo Fernandez, Paredes. Moi, je ne serais pas surpris que Deschamps tente un milieu avec Rabiot et Fofana, en plus de Tchouaméni. Et d'enlever Dembélé
avec Griezmann qui serait derrière du coup Mbappé et Giroud, c'est pas impossible
parce qu'en plus les milieux de terrain argentins, même s'ils jouent en 4-4-2 à plat, ils rentrent très vite à l'intérieur, c'est pas des joueurs de couloir. Donc est-ce que t'as besoin d'avoir des doublons sur les couloirs, etc. Donc, je pense que moi je serais pas surpris qu'il se passe ça dimanche.
Je regarderai ça attentivement et je tirerai mon chapeau à Yassine. Non mais c'est vrai, c'est une belle analyse.
Non mais c'est clair.
Même si pour moi, je pense que d'un point de vue talent, je sais pas si c'est le talent qui te fait gagner une finale, mais qu'en face, à un moment donné, le combat physique va s'estomper et qu'il y aura c'est le talent qui devra parler.
Quand on voit le talent, la France est quand même au-dessus.
Largement.
Maintenant, on voit quand même qu'il se passe quand même quelque chose dans ce groupe argentin. Il y a un supplément d'âme, il y a une grinta, il y a cette provocation. Moi, il me fait penser un petit peu à l'Argentine. L'Argentine un peu d'antan. T'as ce numéro 10 un peu qui fait la différence. T'as les.
Des besogneux derrière.
T'as l'attaquant, là, on va dire, c'est Caninja aux côtés de Maradona. Et derrière, après, t'as que des besogneux, des joueurs un peu moyens, mais qui jouent, où tout le monde joue pour. Pour Maradona. Et là, on a le sentiment, et ça se voit, tout le monde joue pour Messi. On sait l'importance.
Moi, je suis déçu par cette équipe d'Argentine sur le contenu, parce que je suis romantique, pas simplement avec l'équipe de France, mais aussi avec toutes les équipes. J'essaie d'être le plus objectif possible et plus agnostique possible vis-à-vis du football. Moi, j'ai connu je suis pas un spécialiste du football argentin, mais en 98, c'est une autre génération. Même les joueurs les plus besogneux avaient aussi un minimum d'élégance. Je pense à Vérone, par exemple. Aujourd'hui, quand on entend Vérone, c'est Paredes ou c'est un Depaul,
ça fait pas rêver.
C'est pas le même niveau.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je suis assez.
Après, le problème de l'Argentine, c'est que il y a eu, par exemple, l'Argentine de 2006 qui explose la Serbie au premier match, et c'était un festival, et on s'est dit, tiens, cette équipe, elle est exceptionnelle. Et puis,
6-0, c'est ça, mais.
Ouais. Et finalement, huitième de finale, tu sors. Donc,
les Argentins,
mais les Argentins, ils en ont un peu marre aussi de cette histoire. Ça fait depuis 86 qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Voilà, il y a toute cette histoire autour de Messi, Maradona qui est décédé il y a 2 ans. Voilà, je pense qu'il y a aussi des choix, malheureusement, à un moment donné où.
Là, c'est la fin, justifie les moyens, clairement.
Non, mais voilà.
Là, c'est arrêtons d'être beaux, soyons moches, méchants, mais par contre victorieux à la fin.
Je pense qu'ils signeraient parce qu'ils en ont eu, moi, des sélections. On en a eu des sélections très belles, de l'Argentine.
En général, même pas que de l'Argentine.
Moi, moche et méchant, c'est ça?
Exactement. Je pense que ça va être ça.
Là, ils prennent, hein.
Ouais. Je pense que ce serait un beau titre si la France gagnait au lendemain de la finale.
C'est ça.
Je pense qu'on ne serait pas très loin de ça avec la compo qu'a annoncé Yassine. Je pense que ça va être moi chez Méchant avec Didier Deschamps dans le rôle du personnage principal.
Rafik Yassine, qu'est-ce qui se passerait si on se retrouverait, c'est pas ce qu'on souhaite nous en tant que Français, mais l'Argentine championne du monde de Lionel Messi.
Bah, ce serait c'est un accomplissement pour sa carrière. Il vient compléter.
Ça voudrait dire quoi?
Bah, ça veut dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui à l'issue de la finale, c'est être le plus efficace possible dans une rencontre. Enfin, je veux dire, il finit le romantisme quand tu.
Mais est-ce que Messi, on le placerait, est-ce qu'il changerait de statut?
Bah, il est déjà.
Est-ce que le fait, beaucoup disent oui, il lui manque la Coupe du Monde.
Même sans ça, il est déjà dans la catégorie au-dessus.
Il l'a dit, Yacine. Je pense que même 4 Coupes du Monde en plus, il atteindra jamais Maradona déjà dans son pays déjà. Mmh. Être prophète dans son pays déjà, je pense que c'est la première chose. Je pense que c'est pas possible. Et après, pour moi, mon quotidien ne va pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, le GOAT restera. Enfin, j'aime pas rentrer dans ces débats de foot, Cristiano Ronaldo versus Messi. Mais pour moi, le GOAT, ça restera malgré tout Cristiano Ronaldo. Coupe du monde ou pas pour Messi, parce qu'il est même pas prophète en son pays, Messi. Alors Cristiano Ronaldo, je crois qu'avant Cristiano Ronaldo, le Portugal, c'était 3 ou 4 participations en Coupe du monde. Donc voilà, même si on est très déçu par le Portugal, après ils ont peut-être un entraîneur dépassé, etc. On peut ouvrir ce débat-là, mais.
J'entendais dire que Maradona avait gagné la Coupe du Monde 86 avec une équipe, comme on l'a dit, un petit peu moyenne.
Il a gagné la Coupe du Monde, c'est encore plus fort ce qu'il a fait au Napoli. Que ce qu'il a fait avec l'Argentine.
Voilà, moi, je suis un fan des causes perdues, donc il a fait des choses incroyables avec le Napoli. Voilà, Messi, là, il est. Là, avec l'Argentine, c'est vrai que, j'ai pas vu un Messi tirer son épingle du jeu, jouer un Messi leader, d'un point de vue caractère, mais je vois pas. Le Messi qui nous avait choqué la planète fin des années 2010, début des années.
Oui, mais à 35 ans, voir comme ce qu'il fait contre la Croatie, là où il part sur le côté.
Messi, on attend. C'est entre guillemets normal pour lui ce qu'il fait. Il a banalisé
j'ai la culture de l'instant de fou. Hein.
Ouais.
Ah, moi, j'ai mémoire de poisson rouge et j'ai la culture de l'instant. Donc, imagine la vision que j'ai du football. je sais pas. Moi, j'aime bien Griezmann, par exemple. Ouais, tu vois, si je devais mettre en avant un acteur de ce mondial-là, c'est peut-être Griezmann. Voilà, peut-être qu'il n'a pas mis un but en Coupe du Monde, mais qui s'est transformé en Verratti / N'Golo Kanté. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, d'un point de vue performance, et à ce niveau-là du terrain aussi. Mmh. Très bas, récupérer les ballons en défendant debout, avec une vision de jeu, avec une attitude positive. Donc, j'ai l'impression que. La blessure de Karim Benzema l'a arrangé. D'ailleurs, Deschamps, c'est pour ça que je ne le mets pas tout en haut, j'aurais bien aimé voir Deschamps savoir utiliser le Ballon d'Or 2022 dans son effectif. C'est ce qui me dérange. J'ai l'impression que un petit goût d'inachevé, un petit goût amer en fait.
Ouais.
On n'a pas su utiliser Karim Benzema. Certains vont mettre en avant la blessure, etc., mais il était là déjà bien avant. J'ai l'impression qu'il était mal à l'aise, notre Ballon d'Or 2022.
Ce sont sur les mots de Mourad qu'on va se séparer. Merci Mourad, merci Rafik, merci Yacine. C'était un plaisir en tout cas d'avoir partagé ce thème sport avec vous. On se retrouve demain 19h30, 21h.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.